Bonsoir et bienvenue dans cette réunion Prepare for Change, ici à Romainville. Nous sommes le dimanche 17 mai 2015, environ, selon notre perception du temps. Nous sommes avant l'événement, remarque au passage. Nous allons faire juste un petit tour de prénom pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent qui est là. Et puis ensuite, nous pourrons partager des informations ou des ressentis.
Bonsoir, je suis Christine. Je suis très contente de revenir à une réunion PFC où je ne suis pas venue depuis un moment. Voilà, et je salue Lina à l'occasion.
Bonsoir, Véronique. Bonjour aussi, selon le moment où vous allez nous écouter. Bonjour à toute notre famille Prepare for Change.
Bonjour, c'est Aurélien, et c'est la première fois que je viens à la réunion PFC. Très heureux d'ailleurs.
Salut, c'est Antoine. Bonsoir, nouveau membre Romain.
Bonsoir, moi c'est Avi. Je salue tous les membres Prepare for Change de la planète. Un coucou particulier à Lina, notre fidèle auditrice au bord de la mer. Voilà. Je souhaite à tous un très agréable événement. Sans difficulté majeure, un événement dans la douceur, un événement et en même temps important qui propulse dans une vie qui nous ressemble beaucoup plus que ce que nous vivons actuellement. Ça pourrait être dans 5 minutes, hein, ça pourrait être dans 5 ans, mais... C'est comme un feuilleton à suspense, l'événement. On ne sait jamais quel est le prochain numéro du feuilleton. Donc, ceci est une réunion de remotivation. Donc, nous avons réussi à nous réunir à 6, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Ceux qui ne sont pas venus depuis un moment, je vous invite à revenir et à ce qu'on se remotive mutuellement. Peut-être y a-t-il des idées dans cette pièce, dans ce germe d'idées ici présent, pour comment faire pour motiver des personnes alors que nous n'avons aucune idée de quand l'événement arrivera et que certains peut-être se découragent ou ont des attentes ou sont sujets à des attaques de l'ombre. Hein, ou à des doutes profonds intérieurs. Voilà. Quelles pourraient être les idées? On peut faire un brainstorming pour motiver que les personnes qui sont dans ce mouvement, qui sont inscrites dans ce mouvement, soient parmi nous des personnes motivées. Alors, là, il y a 2 semaines, on était 2. On était hyper motivés. Comment faire que toutes les personnes qui viennent soient hyper motivées? Je pense que c'est une question de but. Hein, et si le but est hyper motivant, les personnes qui s'identifient à ce but seront hyper motivées. Donc, peut-être faut-il décrire le but plus précisément pour que ça se passe. Alors, avant de vous laisser la parole, comme c'est une séance de remotivation, entre autres, je vais redéfinir certaines règles qui régissent le groupe, qui sont très simples, qui sont issues du bon sens. D'abord, dans ce groupe, il n'y a pas de chef. Il y a des personnes qui organisent, il y a des personnes qui ont des idées, il y a des personnes qui ont des compétences. Mais on se partage les rôles à égalité. Donc, il n'y a pas non plus d'essayer de convaincre qui que ce soit, j'ai raison ou tu as tort. Et puis, dans ce groupe, on ne parle que de PFC, c'est-à-dire ce qui est en relation avec Cobra, avec l'événement, ce qui s'est passé dans le monde, qui nous indique que le monde change et qu'on se rapproche de cette période, ce qui s'est passé intérieurement en vous, énergétiquement, peut-être dans les temps, les jours, les semaines précédentes, qui vous indiquent que il y a quelque chose qui évolue, qui se rapproche aussi d'un événement intérieur. Voilà, tout ça c'est hautement d'actualité. Quoi que ce soit que vous ayez à dire à ce propos, se redéfinir ce que c'est, pourquoi on est là, et puis qu'est-ce qui fait que ce mouvement PFC est crédible, hein, puisque peut-être pour certains, c'est la question. Hein. Donc lorsque nous pourrons parler de la crédibilité avec notre motivation, peut-être ça rendra ce mouvement plus crédible pour certains qui n'ont pas cette motivation. Ou ça la redonnera, puisqu'on a commencé la première réunion à 22 personnes. Et il y avait une énergie extrêmement forte dans cette pièce. C'était en septembre 2013. Hein. Voilà, quelqu'un voudrait dire quelque chose ?
Ouais, c'est Antoine. Il y a une énergie qui est assez bloquée en France, où il manque en fait vraiment de l'énergie féminine, du divin féminin. Il y a une grosse énergie de... Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est que tout est basé sur un équilibre normalement, et entre l'individualité, moi je suis unique, et l'unité, et on ne fait tous qu'un. Et cet équilibre entre les deux, c'est ça qui crée l'harmonie. S'il y a un déséquilibre, il y a des tensions, il y a toutes sortes de problèmes. Et en ce moment, là, il manque vraiment, à Paris en particulier, de l'énergie féminine, où les gens sont tous très stressés. Il y a un fort, très très fort champ énergétique de jugement. De jugement de l'autre, de jugement de soi-même. Toujours, on marche dans Paris, tout le monde est toujours aux aguets du moindre petit geste. C'est un énorme champ de jugement qui est à Paris, qui est insupportable pour tout le monde, en fait. Et ce qui manque, c'est vraiment cette énergie féminine d'accepter l'autre, de pouvoir être plus calme, pour être un peu plus dans le silence et d'écouter aussi les gens, ce qu'ils ont à dire. Et de tolérer que les gens soient un peu différents. Et ça se voit aussi, c'est une des pires villes en Europe pour une femme, quoi. Pour se balader dans la rue, c'est pas facile du tout. Et pourtant, avec toute la réputation de Paris, d'être une lumière et tout ça, mais en fait, c'est parce que ça l'est, c'est un vortex très important sur la ligne énergétique, sur la grille énergétique de la Terre. C'est un vortex de la déesse, ce qui s'appelle Paris, c'est Parisis, comme on voit dans Israël, le IS, ça veut dire Isis, et Ra, qui est le dieu du soleil, et El, qui était aussi le dieu sumérien. Donc Paris, Paris a été construit sur un temple d'Isis, et parce que c'est un vortex de la déesse, mais les archons, ils attaquent toujours la déesse en premier, parce que c'est leur trauma. Ils ont été traumatisés, et comme tout être qui souffre, qui a été traumatisé, il recrée son trauma, il recrée les conditions de son trauma. Et ils ont été déconnectés de l'unité, et donc quand ils recréent leur trauma, ils attaquent l'unité, ils attaquent le féminin. Ça se voit... au Moyen-Orient, en Irak et Iran et tout ça, c'est un vortex de la déesse très important aussi. Et c'est pour ça qu'il l'attaque aussi fortement. Et c'est pour ça que c'est le pire endroit sur Terre pour être une femme. Parce qu'ils veulent supprimer ce vortex d'énergie féminine. Et donc je pense qu'une des choses qui peut ramener... Parce que là justement, on parle de... On veut être ensemble. Et chacun est dans son coin. C'est un manque d'unité. C'est trop d'individualité. Et pour ramener un peu les gens ensemble, il faut ramener cette énergie féminine. Et je pense que chacun doit commencer... Ça commence par soi-même, en soi-même. Et ensuite, notre relation avec les autres, et ça se manifestera. Et c'est de canaliser ces énergies de la déesse, de pouvoir être moins... Arrêter de juger n'importe qui. Cette petite voix-là dans la tête, et on l'a tous fait, hein, mais justement, arrêter de se juger soi-même aussi, pour d'avoir jugé les autres. Enfin, il faut juste tout pardonner, laisser tomber tout ça. Et pouvoir écouter les autres, pouvoir supporter les autres aussi, c'est pas que moi, je et mon projet. Ce qui est bien, on a tous des projets, il faut les faire, c'est très bien. Mais aussi, il faut pouvoir supporter les autres. Et dire, ah, toi, tu fais ça, c'est génial. Tu vois, encourager, tout ça, c'est l'énergie féminine, de pouvoir se supporter les uns les autres. Ouais, se supporter, se soutenir. C'est pas que les femmes, on a tous les deux polarités en nous. C'est sûr que les femmes, elles canalisent beaucoup d'énergie féminine. Et c'est une partie importante, c'est-à-dire que le genre humain a quand même une signification, parce qu'une configuration physique, ça crée une énergie. Comme si je crée un pentagramme, ça crée une énergie. Donc les femmes peuvent canaliser beaucoup d'énergie féminine, mais aussi les hommes. Et là où on en est, c'est qu'il faut vraiment que hommes et femmes manquent d'énergie féminine. Et voilà, c'est les façons dans lesquelles ça se manifeste. C'est le masculin, c'est l'individualité, c'est aussi il a un but, il veut accomplir quelque chose, et ce qui est très bien. Mais le féminin, c'est plutôt se laisser aller avec le courant, pouvoir être dans le silence, pouvoir accepter, être plus souple, plus doux. Le féminin, le masculin est plus dur, et puis il veut accomplir, il veut créer. Et une des clés aussi pour ramener le féminin, c'est de ramener l'équilibre. C'est parce que ils ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que le féminin, c'est qui est réceptif, et le masculin qui est actif. Pour que le féminin soit réceptif, il faut qu'il y ait quelque chose à recevoir. Donc il faut accepter aussi le masculin et le laisser bouger, laisser le mouvement se faire, le mouvement masculin, et pouvoir le recevoir. Donc il y a besoin d'accepter les deux polarités et de les mettre en équilibre l'une avec l'autre. Pour moi, c'est ça, c'est la clé qui manque, qui crée toute cette énergie négative, pas qu'à Paris, hein. Bon, là, je suis à Paris, je me concentre sur Paris, mais c'est un problème mondial. J'aimerais inviter chacun à se poser ces questions-là et à travailler là-dessus, en soi-même et dans nos relations.
Romain. Donc, merci à Antoine pour ces belles paroles qui sont très justes. Je voulais revenir sur la question de la motivation et l'enthousiasme, qui à mon sens est primordial, et qui est l'essence et le moteur du mouvement. Je pense que pour maintenir la motivation vivante, plusieurs ingrédients sont nécessaires. Déjà, ça commence par une vision commune à long terme, et je pense que cette vision, tout le monde l'a, tout le monde est plus ou moins d'accord. Peut-être qu'il y a certaines divergences au niveau de la de l'après-événement, mais on est plutôt, on est tous d'accord sur le fait qu'on veut un monde meilleur, avec de belles vibrations de lumière. En revanche, je pense aussi qu'il faut s'accorder sur, sur une vision court terme et apprendre à célébrer chaque étape, apprendre à célébrer chaque action, chaque pensée, chaque acte qui s'aligne vers, vers la manifestation physique de l'événement. Ensuite, pour garder cette motivation intacte, je pense qu'il est important pour chacun d'apprendre à s'installer dans le contentement, dans l'enthousiasme, quoi qu'il arrive. Qu'on soit fatigué, qu'on doute, qu'on essuie des échecs, peu importe, cela ne doit pas nous affecter intérieurement. Et on doit véritablement apprendre à s'installer dans ce contentement intérieur, dans cette paix intérieure, de façon à ce que plus rien ne nous affecte, et de façon à ce qu'on apprenne à véritablement célébrer l'existence pour ce qu'elle est, et pour ce qu'on veut qu'elle devienne véritablement. Garder la motivation intacte, c'est aussi à apprendre à sortir de la passivité, apprendre à être actif, être responsable de son environnement, être responsable de ses actes et agir. Parce que c'est très bien de prendre conscience, c'est très bien d'avoir une certaine connaissance, mais si je puis dire, elle restera toujours incomplète si elle n'est pas expérimentée et si on ne passe pas à l'action. Et je pense que dès lors que l'on s'installe dans l'action, mais sans attendre de résultats, parce que dès qu'on passe dans cette attente de résultats, si le résultat ne vient pas tout de suite et comme on veut, on va se décourager. C'est plutôt agir pour le plaisir d'agir. C'est agir pour servir le bien de l'humanité. Et tout simplement être content de ses actes et pas se projeter constamment dans l'attente du résultat. C'est surtout ça que je veux dire. Et enfin, si je peux conclure, je dirais qu'il faut qu'on apprenne à sortir de l'ennui, parce que l'ennui, c'est ce qui nous tue à petit feu. Et si on apprend à pas s'ennuyer, on sera toujours motivé. Si on apprend à pas s'ennuyer, on sera jamais fatigué. Et voilà, ça fait partie des ingrédients et de la petite potion magique pour garder sa motivation intacte, quels que soient les événements à venir.
Demande quelqu'un d'autre. Il n'y a personne. C'est Aurélien qui parle. La remotivation. Moi, je découvre la remotivation vu que c'est la première fois que je viens. Donc, il y a de la motivation simplement, en fait. Moi, j'en vois avec, par exemple, tout ce qui peut être posté sur le blog d'Antoine, des choses qu'on peut faire, les mots qui viennent d'être dits par Romain et Antoine. Et puis les changements de semaine en semaine, j'ai l'impression que, c'est pas qu'une impression, à mon avis, on voit tous la même chose. Ça va de plus en plus vite, en fait, les changements vont de plus en plus vite. Il y a vraiment des choses qui se passent qui font que si des personnes étaient démotivées, je pense qu'en se reconnectant un peu à ça et en observant, on peut se dire que moi, j'ai l'impression que les choses vont arriver dans pas très très longtemps. Alors après, le pas très longtemps, ça peut être comme tu disais, demain matin, ou dans 5 minutes, ou dans... Voilà. Mais en tout cas, je trouve que dans les gens qui qui parlent dans ce réseau et qui ont les informations, je trouve que ça revient souvent que la personne ne s'y attendait et pourtant la séquence s'accélère vraiment, alors que les gens qui ont vraiment des bonnes informations ne pensaient pas que ça s'accélérerait aussi vite et maintenant. Et je trouve que rien que ça, enfin moi personnellement, les moments où il y a un petit peu de baisse de Calgon, juste de lire ces informations-là font que personnellement ça me remotive. Que ce soit Cobra, même si c'est plus succinct, mais David Wilcock par exemple à certains moments, voilà, tout ce genre de personnes. Alors je passe le mic à qui veut parler.
C'est Avi. Alors je crois utile de préciser que nous sommes tous shootés à l'eau tachyonisée ce soir. Et donc ça pourrait être une réunion totalement géniale si les tachyons s'emparent de nous, parce que c'est contrairement à l'alcool, plus il y en a, plus on dit des choses intelligentes. Parce que les tachyons nous reconnectent à notre vraie nature, et notre vraie nature, elle a un bon sens infini. Jamais, avec notre vraie nature, on penserait à manipuler quelqu'un, à lui extorquer son argent, à le mettre en esclavage. Donc, il n'y a rien à apprendre, en vérité, dans ces réunions, mais il y a beaucoup de choses à désapprendre. Désapprendre que je suis plus heureux en manipulant quelqu'un, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, les gens qui font ça, visiblement, sont des gens pas très bien pourtant. On peut avoir beaucoup de compassion pour eux, mais en même temps, passez votre chemin. C'est pas ça qu'on veut. Hein. C'est pas ça qu'on veut. Donc, y a peu de temps, je lisais un texte à propos des 144 000. Et il m'est venu une idée, et ce germe-là, j'ai envie d'en parler, parce que je me suis dit, eh ben oui. Si l'hypothèse de base, c'est réunir 144 000 travailleurs de lumière au même moment, pour faire la méditation du dimanche soir à 21h, hein, c'est pas juste pour méditer, parce que ça, dans le monde, il y en a plus d'un million dans le monde qui méditent ou qui font un travail de lumière comme nous. C'est pas juste être en conscience, c'est faire la méditation et exprimer cette direction de libération planétaire qu'on exprime dans la méditation de dimanche soir. Alors, je ne sais pas d'où elle est venue, cette idée. Peut-être mes frères des étoiles, merci de me l'avoir insufflée. Mais je me suis dit, le meilleur moyen d'avoir 144 000 personnes, c'est de les inviter. C'est de les inviter à venir à un endroit précis. Un dimanche à 21h sur la planète. Et on ne commence pas tant qu'il n'y a pas 144 000 personnes. Alors, la motivation derrière tout ça, c'est que l'événement derrière, il est donné pour arriver immédiatement. S'il y a 144 000 personnes qui viennent. Et donc, la question se résume à, mais ce n'est pas une petite question, comment faire arriver 144 000 personnes dans un même lieu pour méditer. Déjà, beaucoup de communication, parce que si à la clé, c'est un changement total d'existence, mais moi je veux aller même sur le cercle polaire pour faire ça. Moi j'y vais demain. Pourquoi ? Parce que je suis hyper motivé.
Mais tu es déjà convaincu.
Mais la communication, ça veut dire que vous voulez changer votre monde radicalement, vous voulez être heureux, vous voulez avoir une vie qui vous ressemble. Alors, on vous propose de venir dans tel lieu, à tel endroit, et cet événement qui va tout changer suivra. Hein. Si je pose cette question aux personnes déjà qui sont dans le mouvement PFC, Est-ce que si l'événement vient dimanche prochain à 21h, est-ce que tu seras avec nous? Mais c'est évident qu'ils vont répondre oui. Est-ce que tu viendras? Si l'événement se passe dimanche prochain, mais que ça dépend de ta venue, est-ce que tu viendras? C'est déjà pas mal. Hein, bien sûr, ça demande beaucoup d'organisation, mais moi, je suggérerais... toi, c'est Aurélien, c'est ça? Romain, pardon. Je suggérerais à Romain de penser en dehors de la boîte, parce que Romain a émis la suggestion que pour réunir 144 000 personnes, il faut des autorisations, il faut... Et pour moi, c'est une pensée qui est conditionnée par la société actuelle, alors qu'on veut en sortir de ce mode de pensée. Le mode de pensée que pour vivre notre vie d'humain, il faut demander la permission. Ben non, moi, je pense pas comme ça. Moi, je dirais, on peut se réunir au milieu du désert. Quelle permission? À qui il y a besoin de demander la permission pour se réunir au milieu du désert? Ou de la forêt amazonienne, où il y a tellement... La planète est immense. Il y a énormément de coins vides dans la planète. Sur une plage, je sais pas, des plages désertes, des îles désertes même. Et, alors après, il y a l'organisation, mais... L'organisation, pour moi, c'est un détail. Parce que si l'idée est suffisamment répandue, il y aura assez de bonnes idées pour que ça s'organise tout seul. Il y a des personnes, c'est incroyable, mais écoutez bien, il y a des personnes qui ont réuni 1 million d'enfants pour chanter « Changeons le monde ». Et ils ont chanté ça dans toutes les langues du monde. Et c'est sur mon site Être Plus. 1 million d'enfants par rapport à 144 000, c'est 6 fois plus. Ils l'ont fait. Hein. Si c'est 1 million d'enfants, ben, ils avaient fait la méditation de libération, ben, on ne serait plus là en train de dire quand est-ce que Cobra appuie sur le bouton. Donc, mais vous vous rendez compte, s'il y a même un sandwich par enfant, ce que ça fait 1 million de sandwichs, la longueur que ça fait? Ça doit faire le tour de la Terre. Hein. Mais là n'est pas la question. Je dirais que l'organisation n'est pas le point crucial. Le point crucial, c'est la motivation. Le point crucial, c'est que les personnes à qui on pose cette question disent oui tout de suite, sans réfléchir. Disent, tu veux changer complètement le monde, je te promets que ça va se passer, mais ta venue est indispensable. Et ça va durer 25 minutes. Et après, c'est tout. Et après, c'est terminé. Alors, quand on fait un sondage dans la rue et on demande aux gens « Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ?» Il y a une personne sur deux qui dit oui. C'est beaucoup plus que ce que nous pensons. Hein. C'est réel, hein, ça s'est fait. C'est quelque chose qu'on peut faire, un micro-trottoir, un micro-raclette ou je ne sais quoi, dans la rue. Il y a beaucoup plus de personnes que nous pensons qui croient que les extraterrestres existent, hein, et qui peuvent venir sur Terre, parce que c'est les conditionnements qui nous font penser que qui nous font penser que les autres ne croient pas aux extraterrestres. Mais on est dans une société où l'information circulant à toute vitesse sur Internet, c'est un sujet qui a énormément évolué, hein, depuis longtemps. Donc, moi, je disais, commencez à communiquer, et puis, si cette communication commence à être virale en disant, je ne sais pas, peut-être il y a une date à fixer, je ne sais pas, peut-être ça serait un équinoxe, un point énergétique du globe très important, au Pérou, je ne sais pas, ou... un solstice au bord de la mer. Et à partir de ce moment-là, commencer à impliquer les personnes qui ont une... comment on appelle ça? Une influence spirituelle dans le monde. Ces personnes-là, si elles savent qu'un événement de conscience majeur va avoir lieu dans tel lieu, à telle date et pour telle aspiration profonde, bah, peut-être que leur influence va être amenée à s'exercer. Alors, qui suis-je, moi, pour émettre une idée d'une telle ampleur ? Je suis rien. Hein. Je ne suis rien. Je n'ai qu'une idée comme une autre. Mais l'idée qui fait boule de neige, c'est ça l'idée qui va changer le monde. C'est l'idée qui va être reprise et reprise et reprise. Et l'idée aussi à laquelle on peut croire, hein, qui est crédible. Voilà. Alors, si on veut qu'il y ait 144 000 personnes en même temps, eh bien, l'action, c'est invitons-les. Invitons-les dans un lieu précis et voyons s'ils viennent. Ou alors, communiquons par tous les moyens possibles pour leur insuffler l'idée que c'est possible. Parce que c'est avant tout... le conditionnement intérieur qui dit c'est pas possible, qui fait que les gens abandonneront l'idée de venir. Hein. Donc il n'y a qu'une question de croyance, hein, à changer. C'est pas les gens qui sont à changer, c'est ce à quoi ils sont prêts à croire. Donc voilà, avec des mots particuliers. Tout commence par une pensée, hein. Donc c'est pensée, parole, action, les trois actes de la création, les trois étapes de la création. Donc on peut bien émettre quelques pensées. Hein. Voilà, j'ai parlé. Qu'est-ce qu'on rigole ?
Je pense que c'est bien aux gens de réfléchir à ça pour se rendre compte qu'ils ont le pouvoir. Parce que, ah ouais, si on fait ça, ça y est. Et les gens ne se rendent pas vraiment compte. Ils pensent qu'ils n'ont aucun... ils sont habitués à être des esclaves. C'est un réflexe qui a été ancré dans le psyché des gens beaucoup plus profondément que la plupart des gens l'imaginent. Et du coup... parce que déjà, c'est vrai que réalistiquement, okay, ça prendra beaucoup plus de, ça demande beaucoup plus de travail de rassembler tout le monde au même endroit. Mais là, à la base, ce qui est dit, c'est juste au même moment. C'est beaucoup plus facile. Et rien que ça, ça amènera l'événement. Donc si, mais de ce que tu dis, c'est que pour aider les gens à se rendre compte que ah ouais. Si on fait ça juste un dimanche, c'est pas tellement compliqué. Mais les gens ont beaucoup de blocages, quoi. Beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'implants, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de reptiliens et d'archons qui harcèlent les gens vraiment énergétiquement pour qu'ils soient détournés de ce truc-là. Et en 2012, la résistance, ils avaient un plan qu'ils avaient élaboré depuis quelques décennies. C'était l'événement en juin 2012. Ils avaient prévu ça. La Terre, elle avait prévu d'ascensionner en 99. Ça a dû être reporté. L'événement a dû être reporté. Mais parce qu'ils avaient... Un des facteurs, c'est qu'ils avaient imaginé que les gens participeraient. C'est-à-dire qu'il y a un des acteurs, parce qu'on est un des acteurs, c'est-à-dire qu'il y a, d'autres acteurs, il y a la Résistance, il y a la Confédération Galactique, mais on est un des acteurs, on est un des piliers de cette construction. Et s'il manque un pilier, c'est sûr que tout prend beaucoup plus de temps. Et il y a eu quelques méditations qui ont été faites des portails que Cobra lançait à certaines dates, pas la méditation hebdomadaire, mais une méditation d'une fois, où il y a eu plus de 144 000, il y en a eu deux en 2012. Donc ensuite, ils se sont dit, bon, il y a un bon groupe de gens, si on lance cette méditation toutes les semaines, ça va être vite fait. Mais les gens sont démotivés parce que les Archons ont encore une grille de contrôle très forte. Et un des points de contrôle, c'est que les gens ont peur de visualiser les reptiliens, de visualiser les Archons, même si c'est pour les envoyer en chambre de soins et les envoyer vers la lumière. Les gens ont peur. Et ça, c'est une peur qui a été ancrée au fur et à mesure de plein de vies que les gens ont vécues. Où très souvent, même quand les gens meurent, ils vont sur les plans éthériques et astraux. Des fois, ils les rencontrent, ces genres d'entités. Donc, forcément, quand on fait face à un reptilien et puis qu'il y a de la violence, on a peur. Et ces peurs-là sont ancrées dans le subconscient d'humanité profondément, mais de façon assez forte. Et ensuite, il y a le New Age qui a dit ne regardez rien de négatif parce que sinon vous allez le renforcer. S'il ne fallait pas regarder les reptiliens, sinon on les renforcerait, comme j'expliquais tout à l'heure hors micro, déjà la plupart de la population fait déjà ça. Donc, ça veut dire que les reptiliens seraient déjà partis. Mais ça ne marche pas. Il faut envoyer de la lumière, il faut que la lumière puisse. Et que la source, le créateur, puisse atteindre toutes les parties de la création. Parce que le problème, c'est que justement, ces entités négatives, elles sont déconnectées du créateur. Donc il faut que le créateur puisse les atteindre. Et le créateur, c'est nous, il n'est pas quelque part dans le ciel. C'est-à-dire que chacun de nous, on est le créateur. Et quand on fait cette méditation, on envoie de la conscience. Et la lumière de la conscience automatiquement transforme. Mais ces choses-là ont été complètement mises à l'envers par le mouvement New Age. Et du coup, oui, il y a beaucoup de gens qui sont détournés de vouloir faire ça. Et c'était l'année dernière où Cobra a lancé une deuxième méditation, quelques heures avant la méditation de libération, où pratiquement toutes les figures les plus connues qui sont dans ce milieu-là ont été contactées. David Wilcock, même Deepak Chopra, plein de noms ont été contactés comme ça, et très très peu de gens ont été intéressés parce que les gens ne veulent pas donner leur attention au problème. Les gens veulent méditer juste pour la paix. Et Deepak Chopra, je crois que c'était l'an dernier, où il a lancé une grande méditation pour la paix, il y avait des centaines de milliers de personnes. Et c'est bien, ça a un effet, mais beaucoup moins que d'adresser la situation. Et du coup, voilà, c'est des gens comme ça qui ils veulent simplement se concentrer sur ce qui va. Et il y a une urgence, il y a vraiment des violences qu'on peut voir sur le plan physique. Il y a énormément de souffrances sur cette planète, il y a énormément de sans-domicile fixe, il y a énormément d'animaux qui sont en camp de concentration. Et tout ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité aussi qui est reflétée sur les plans non physiques, éthériques et astraux. Et pour moi, quand on voit l'urgence de la situation, on ne peut pas dire « oh oui, philosopher ». Pour moi, c'est comme si notre maison était en feu, parce que la planète, c'est notre maison à tous. Si notre maison est en feu, on ne va pas philosopher sur « attends, je vais voir quelle est la bonne énergie ». Enfin, faisons quelque chose, quoi. Je veux dire, quoi que ce soit, mais la maison est en feu, quoi. Il y a des millions d'êtres vivants qui souffrent au quotidien. Faisons quelque chose. Il faut adresser le truc. Voilà, c'est difficile parce que ça a été essayé, quoi. Il y a eu beaucoup d'invitations qui ont été émises. Et ça encore, c'est manque d'énergie féminine parce que chacun veut faire son propre projet dans son coin et les gens ne veulent pas travailler ensemble. Donc c'est l'individualité, pas d'unité. C'est toujours le même problème. C'est moi, 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 et ma carrière, et ma vision des choses. On travaille tous pour le même but quand même. Je crois qu'on travaille tous pour la libération. Donc il doit y avoir un terrain commun. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que l'action cohérente change les choses. C'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de monde ici. Alors qu'il y avait plus de monde, et il y a plus de monde à Paris qui pourrait venir et qui veulent que l'événement se passe, c'est que les gens se disent « Oh, mais je fais la méditation, et puis dans mon quotidien, je fais de mon mieux pour donner de l'amour à ceux qui m'entourent. » Et ça, c'est très bien, je ne dis pas que c'est rien, hein. C'est très bien. Mais justement, il y a aussi besoin de travailler ensemble. Parce que sinon, on est toujours dans le déséquilibre de moi et ma vie et mon projet et ma vision des choses. Et c'est pas incompatible, en fait. C'est ça aussi le programme, c'est de croire que c'est incompatible, l'individualité et l'unité. C'est-à-dire que ton projet, il est très bien et ta vision des choses, elle est très bien. Et tu n'as pas besoin de l'amputer pour travailler avec les autres. On peut trouver un terrain d'ensemble, un terrain d'entente, où on peut, ok, on travaille tous sur le même but, donc faisons quelque chose. Il y a un principe en vibration que j'expliquais aussi tout à l'heure, qu'on peut observer en musique. Quand on place deux enceintes l'une à côté de l'autre, qui jouent la même musique, le volume est amplifié, et au carré. C'est-à-dire que si il y a une seule enceinte, le volume, c'est un volume de une enceinte. Et si on met deux enceintes, on a tout de suite un volume de 2 fois 2, 4. Si on en met 5, on a un volume de 25. Si on en met 10, on a un volume de 100. C'est le volume, c'est du son, c'est des vibrations. Et nous, quand on médite, on émet des vibrations. Et c'est le même principe qui applique à la méditation. Quand on vient ensemble, au même endroit, nos ondes sont vraiment amplifiées. Mais pas de... Enfin, au carré, ça fait quand même une grosse amplification. Et c'est aussi pour ça que méditer au même moment, parce que bon, il y a des gens partout dans le monde qui c'est difficile de les rassembler, mais au moins au même moment, ces ondes-là, elles vont en tout cas se rejoindre à un certain moment et elles seront amplifiées. Donc c'est le même principe, pourquoi on médite au même moment. Et aussi pourquoi on fait la même visualisation. Parce que si les enceintes jouent deux chansons différentes, le principe ne s'applique pas. Donc, c'est bien aussi d'avoir du temps pour soi et de faire son propre truc à sa façon. Ce serait bien d'avoir un équilibre avec, ok, maintenant on fait des trucs ensemble, des projets ensemble, et chacun peut amener des idées. Enfin, c'est vraiment ouvert, ce projet. Il n'y a pas un gourou très strict qui est là à dire non, les suggestions sont les bienvenues, n'importe quoi qui peut aider à ramener un peu d'harmonie. Voilà, c'est aussi ça la valeur et le pouvoir de travailler ensemble.
Tiens, Aurélien, je voulais revenir sur ce que vient de dire Antoine. Il a dit quelque chose qui a fait tilt. Il a dit la maison, elle est en feu. Et au niveau de la motivation, on est tous, enfin, ici en tout cas, et pas mal de personnes qui écoutent, à mon avis, sont dans une situation de luxe par rapport à certaines personnes sur la planète. On a un toit au-dessus de notre tête, on a à manger. Et quand tu as dit la maison, elle est en feu, ça m'a fait me dire, ces gens-là qui sont en Asie ou en Afrique, en Amérique du Sud, qui n'ont pas assez à manger, qui doivent se battre chaque jour pour manger, ou si c'est dans un pays froid, trouver un endroit où dormir et pas mourir de froid la nuit, si on leur disait à eux, ce soir, il faut être 144 000 dimanche à 21h, et tout, c'est réglé, vous aurez un toit et à manger à vie, mais eux, ils courent direct. Ils courent direct. Et sauf que nous, comme ça va à peu près, c'est beaucoup de souffrance intérieure en fait, le monde tel qu'il a été créé ici. Mais en vrai, ça va, on maintient la tête hors de l'eau et on a réussi à faire des belles choses, mais on a à manger, on a un toit. Ce qui fait que la motivation, elle est moindre, vu que c'est presque uniquement altruiste. J'aurais envie de dire, si on vient là, c'est parce qu'on se dit, on a envie que les choses changent pour tout le monde. Mais parce qu'on a ce luxe d'être dans, une, dans un pays occidental où il y a de quoi, où on survit en fait. Et où ça va bien, où ça va très très bien par rapport à là où ça ne va pas. Alors, je me dis que ça vaut le coup de faire l'effort pour les autres, et au bout du compte, c'est pour nous aussi, de faire ça le dimanche soir, de se retrouver ensemble. Quand Avi parlait de se retrouver 144 000 au même endroit, moi, je ne pensais pas que c'était ça qu'il fallait. Et Antoine vient de rappeler que non, en fait, c'est 144 000 autour de la planète, au même moment. Mais c'est vrai que la planète au niveau de, la, de l'univers, c'est peut-être le même endroit, en fait. D'une certaine manière. Mais ça pourrait être la voie du milieu entre les deux. C'est-à-dire que dans chaque grande ville, au niveau planétaire, vu que ça a plus de force et d'impact d'être, rien qu'aujourd'hui on est 6, mais être à Paris, voilà, toutes les personnes qui veulent et peuvent le faire, ça pourrait être 2000, 5000, 10 000, 200. Et pareil au Pérou à tel endroit, et pareil en Asie, à Taïwan à tel endroit. Mais si une date précise, à 21h le dimanche soir, on sait que c'est tel moment parce que chacun a dit dans son groupe sur Facebook ou je ne sais où, oui, je participerai à cette date-là. Là, on sait qu'on a le nom. Et dans ces cas-là, ça peut être dans chaque grande ville, 500, 2000, 5000, 10 000. Et effectivement, dans une forêt, sur une plage. Ça vient comme ça, hein, ça me vient comme ça. C'est ce que vous avez dit tous les deux qui me fait me dire ça.
Romain, c'est pour revenir sur ce que disait Aurélien quand par rapport à la notion de conscience individuelle. Ce que je voudrais souligner, c'est que en aucun cas la conscience individuelle est un obstacle à la non-dualité, car de toute façon nous sommes tous pure conscience indivisée qui se manifeste à travers des corps, qui est en attente de manifester un potentiel. Donc ça, c'est expliqué au niveau quantique, etc. Je vais pas développer plus là-dessus. Mais là où je veux en venir, c'est que tant que les membres du mouvement continueront à lutter contre cette idée de non-dualité, cela créera nécessairement des blocages et de la résistance. Et je pense vraiment qu'il est primordial que nous soyons tous dans un espace justement non-duel. Parce que la planète, je pense que le plus gros problème qui a été implanté dans cette planète, c'est bien justement cette notion de dualité. C'est cette souffrance, la souffrance qui est générée, c'est justement parce qu'on se croit séparé de la source. On se dit, mais pourquoi est-ce que la source ne vient pas nous sauver? Alors que la source, c'est nous. Donc on est là pour nous sauver nous-mêmes, on est là pour développer le potentiel infini qui sommeille en nous. Mais tant qu'on luttera contre cette idée, on créera nos propres blocages. Ça c'est une vérité, je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Et à mon sens, à partir du moment où on va agir dans un espace non-duel, tout deviendra possible. Et la synergie et la puissance que ça va générer, ça va créer une vague énergétique sans précédent qui amènera à la manifestation de tout ce qu'on voudra faire. Mais ça implique que chaque élément arrête de vouloir agir comme une entité différenciée du tout, et que en tant que conscience individuelle, on avance ensemble comme une conscience collective. Et c'est en cela que chacun a un rôle à jouer. C'est en cela que chacun doit prendre conscience de dire, effectivement, je suis rien, mais en même temps, je suis tout. C'est un des plus grands paradoxes de la vie, mais je suis rien et je suis tout. à mon sens, veut quasiment dire la même chose. Et en prenant conscience de « oui, je suis rien, mais en même temps, je suis tout », nous sommes tout et nous pouvons tout manifester. En prenant conscience de cela, on va faire sauter énormément de blocages. Et oui, réunir 144 000 personnes, c'est possible. Et c'est même tout à fait réalisable. Et ça peut même presque se faire sans effort, si je puis dire. Mais seulement si on suit la bonne méthode et la bonne stratégie. Et la meilleure stratégie, c'est être ensemble, c'est être unis, et dans l'espace de non-dualité qui est en fait l'espace dans lequel chacun devrait évoluer depuis sa naissance et réaliser son potentiel divin.
Je suis tout à fait d'accord. Justement, dans un de mes derniers posts, je parlais justement de pas confondre la dualité et la polarité. C'est un des gros problèmes, c'est un des gros programmes arcons justement de confondre les deux. Et la dualité, c'est la lutte entre l'harmonie et la souffrance. Et la polarité, c'est la danse, c'est l'équilibre entre la conscience individuelle et la conscience collective. Et ils ont fait croire à beaucoup de gens que la conscience individuelle et la conscience collective étaient contradictoires et qu'elles se battaient et que c'était ça la dualité, alors qu'elles sont complémentaires. En fait, c'est les énergies masculines et féminines qui sont amoureuses l'une de l'autre, qui ne sont pas en lutte. Et la dualité, qui est la lutte entre la santé et la maladie, l'harmonie et la souffrance, c'est un programme, c'est une anomalie. Mais donc ils disent aux gens que ah oui, il y a besoin de souffrance pour pouvoir connaître la vie, et ça encore une fois, c'est pas vrai. On peut pas comprendre, on peut pas évoluer si on est dans la souffrance. Des fois, il y a une expérience difficile qui nous fait avancer. Mais la raison pour laquelle cette expérience difficile nous fait avancer, c'est parce qu'il y avait des problèmes et des souffrances qui étaient là depuis longtemps et qui, par l'expérience, sont amenées vers la conscience. Par exemple, un cancer. Le cancer arrive parce qu'il y a des toxines, il y a des pensées, des émotions négatives qui sont là et qui affectent la vie du malade depuis longtemps. Et ces problèmes-là, ils sont déjà présents avant le cancer. Avant que le cancer arrive, sauf que la personne ne s'en rend pas compte. Elle n'adresse pas ces problèmes-là. Et du coup, le cancer arrive pour amener ces problèmes à la conscience. Mais c'est pas le cancer en lui-même qui amène... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin du cancer nécessairement. Il y avait juste besoin de ramener les problèmes à la conscience. Bon, il y a plusieurs facteurs aussi sur Terre aussi. C'est-à-dire que c'est une situation très complexe. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est aussi violé sur Terre. C'est-à-dire que si nos conditions ne sont pas forcément 100% le reflet de notre propre conscience et de notre propre. Donc c'est là où il y a vraiment quelque chose qui peut bloquer. Et c'est normal que, dans un sens, que les gens bloquent là-dessus. Parce que. C'est pas normal, c'est pas la façon dont l'univers fonctionne normalement. Il y a certains êtres qui vont nous balancer des énergies négatives ou des toxines dans ce qu'on mange et tout ça, sans qu'on soit d'accord. Donc du coup là, le libre arbitre est violé et là c'est plus notre, c'est-à-dire que notre réalité. On l'a plus créé à 100% parce qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont venus et qui n'ont pas respecté notre libre arbitre, notre niveau de conscience. Et ça, c'est vraiment compliqué à gérer et à comprendre tous les paramètres en même temps et à pouvoir les discerner, les distinguer. C'est-à-dire que c'est sûr que oui, il y a cette anomalie, mais en même temps, si nous, on reprend notre pouvoir et on se remet à créer notre réalité, on peut nettoyer ces anomalies. Et si on reste inconscient de ces anomalies, et si on reste dans une perspective de ne pas adresser les problèmes, et puis de ne pas vraiment créer notre réalité de façon... de ne pas être dans sa souveraineté, de ne pas prendre de décision, parce qu'on nous apprend à ne pas prendre de décision, jamais. Les gens suivent, et la plupart des gens deviennent une espèce d'émetteur-récepteur, une antenne radio qui ne fait que recevoir ce que le système diffuse, ce que la cabale diffuse, au lieu de prendre leur propre décision sur qu'est-ce que je vais créer dans ma vie. J'ai pas envie de rentrer dans ces moules-là, dans ces vibrations-là. J'ai envie d'être, de prendre mes propres décisions. C'est là aussi on peut créer vraiment notre vie, mais les gens ne le font pas. Donc du coup, il y a toutes ces... Enfin, c'est le bazar, hein. Il y a plein de paramètres qui font que les gens restent bloqués sans pouvoir comprendre tous les paramètres de notre situation. Donc... Là, je vais finir sur une solution. La solution, c'est justement de prendre des décisions et de les créer et de les mettre en action et de travailler ensemble et aussi de pouvoir décider, non, je ne veux pas souffrir. Je veux plus de maladie. Je veux de prendre ce type de décision et aussi d'être dans l'équilibre de la polarité, d'accepter les deux polarités et de ne pas les confondre avec la dualité.
C'est bien finir sur la solution. Merci Antoine, c'est Avi. Alors, répondre à Aurélien, bah, oui, ça peut être fait dans plusieurs villes du monde. S'il y a 12 villes qui ont 12 000 personnes, c'est suffisant. Sauf que ça doit être très coordonné, hein, pour qu'il y ait réellement les 12 000 dans chaque... Alors moi, je pensais tout à l'heure à... un sondage, parce que Cobra a déjà lancé des sondages dans le passé. Le sondage, ça pourrait être, si on fixe aujourd'hui l'événement au 16 juillet 2016, est-ce que tu seras là ? Ça peut être simplement cette question. Est-ce que tu seras là, dans ta ville, hein ? Dans ta ville. Et puis, compter le nombre de oui. S'il y a 144 000 oui, d'ailleurs, il en faut moins que 144 000. Il y a une marge de manœuvre, hein, dans les 144 000. Il faut à peu près 120 000, je crois, ou 115 000. Mais ça a été agrandi pour plus de sécurité. Donc, parce que... l'enjeu est énorme. Ça a l'air d'une phrase anodine, mais si l'enjeu, c'est changer la vie du tout au tout, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça ? Si c'est simplement me rendre au bois de Vincennes dimanche 16 juillet 2016 et puis être en conscience pendant 30 minutes, moi, je cours. Je n'y vais pas, je cours. J'entraîne tous les voisins. Donc peut-être ça passe par des choses comme ça, un sondage, ou ça passe par... j'ai l'impression que les personnes non motivées ne se rendent pas compte de l'importance de l'enjeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu dans ces méditations ? Que c'est comme si c'était un jeu qui n'avait pas d'importance, alors que... Alors je voudrais citer une anecdote, ça va être... je vais essayer de le faire court parce que c'est un sujet énorme. C'est un sujet dont Cobra a parlé récemment en parlant de la race centrale et des wingmakers. Wingmakers, c'est un sujet que je suis depuis au moins une dizaine d'années. Pour faire court, donc, ce sont des êtres venus du futur qui sont à 750 années dans le futur par rapport à nous, mais c'est nous, c'est-à-dire c'est l'humanité terrestre dans 750 ans. Qui sont venus sur Terre aux alentours du 8e siècle, je crois, après Jésus-Christ, qui ont creusé dans une montagne avec des outils très, très performants, 24 chambres, ils ont taillé, c'est poli comme du marbre, ils ont créé, ils ont mis des peintures, et c'est les deux peintures que vous voyez là, dans mon salon, c'est les reproductions de ce qui est réellement là-bas, que eux ont fait. Ils ont mis alors il y a 23 chambres hein, qui correspondent à l'ADN humain. Hein, en fait, le chiffre 23 correspond à l'ADN humain. Il y a une 24e chambre qui chapeaute le tout, si on peut dire. Voilà, dans cette 24e chambre, il y avait un CD optique qui a été très difficile à déchiffrer et qui recèle de la musique. Et cette musique, elle a été composée par les Wingmakers. Non pas par... elle n'a pas été... Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais les Wingmakers ont donné la manière de faire la musique. Parce qu'ils ne pouvaient pas nous transférer la musique directement. Ils nous ont donné la manière de la composer et des échantillons. Ce qui fait que ça a été refait, mais selon leur musique à eux. Donc, dans chaque chambre, il y a un tableau, il y a deux textes de poésie, il y a un texte de philosophie, et il y a un artefact, c'est-à-dire un objet intelligent. Bref, tout ça, ça a été subtilisé par la NSA, qui ne savait pas quoi en faire, parce que c'était tellement pointu qu'ils l'ont donné à un organisme ultra secret qui s'appelle la CIO. Donc ils s'occupent des technologies extraterrestres pour récupérer les technologies et les remettre à l'humanité. Ils ont réussi à décoder à partir du sumérien, ils ont réussi à décoder le disque optique en 6 mois, parce que c'était très très compliqué. Mais le type qui a décodé ça, il a été en connexion télépathique avec les Wingmakers. Il a eu des indices hein, pour le faire. Donc les Wingmakers, et dans ce CD, il y a des textes philosophiques, qu'ils appellent philosophiques, mais qui sont spirituels, de très grande portée spirituelle, que j'ai diffusé dans la dernière newsletter. Et cette personne, il y a une personne de cet organisme secret, la CIO, qui a fait défection. C'est l'organisme le plus secret de la Terre. Même la NSA ne sait pas qui sont les membres de cet organisme-là. Une personne qui a fait défection et qui a donné 5 interviews à une journaliste, sachant que si on portait atteinte à sa vie ou à quelque chose comme ça, la journaliste révèle le nom de toutes les personnes de cet organisme ultra secret. Donc c'est sécurisé de cette manière-là. Et donc, il y a un site aujourd'hui, wingmakers.com. Plus ça va, plus les interviews sont extrêmement puissantes. Mais l'information principale que les Wingmakers nous donnent, qui sont nous dans une version future, c'est qu'ils sont sortis de la matrice. Et que la seule preuve qu'ils soient sortis de la matrice, c'est qu'ils nous envoient cette information de là où ils sont. Ces informations extrêmement spirituelles. Donc, c'est très relié à PFC. Plus je lis et je relis, et plus je vois la connexion avec PFC, parce qu'il y a des choses extrêmement similaires. Donc là, je suis en train de remettre en forme les textes en français, améliorer les traductions et les ponctuations. Et puis, je vais envoyer les 4 premières interviews de cette journaliste, parce que c'est très compréhensible, parce que c'est une journaliste béotienne qui pose des questions comme vous et moi ou n'importe quel humain pourrait poser. Et le docteur Neruda répond donc à ces questions. Et ça va très très loin. Hein. Parfois, ça va très très loin. Mais... les Wingmakers donnent une technique pour s'échapper de la matrice. C'est une respiration qui s'appelle la pause quantique, que moi je pratique depuis 3 ans. Et leur slogan aux Wingmakers, c'est « Je suis, nous sommes ». « Je suis vertical et nous sommes horizontal », ce qui fait une croix. Et ils nous disent très clairement que ce basculement de conscience aura lieu puisqu'ils sont après. Et que s'il n'avait pas eu lieu, ils n'auraient pas pu nous communiquer tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, le rôle de cet organisme ACIO, c'est de trouver un moyen de se déplacer dans le temps vertical pour aller modifier le temps, hein, dans des endroits bien ciblés. Et pour eux, c'est l'arme défensive la plus puissante au monde que toutes les civilisations rêvent d'avoir parce qu'on peut modifier l'histoire grâce à ça. Et dans le temps horizontal, les événements sont les uns après les autres. Mais dans le temps vertical, on peut, c'est toujours le maintenant et on peut aller où on veut. Mais eux ont trouvé un moyen, les Wingmakers, d'interagir avec les civilisations. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont revenus faire cette caverne avec ses chambres. Et il y a sept artefacts, ils appellent ça des capsules temporelles. Il y en a sept qui sont disséminées sur la planète. Il n'y en a qu'une qui a été trouvée au sud des États-Unis. Et lorsque toutes seront trouvées, ça sera, l'humanité fonctionnera comme un seul corps, d'après eux, hein, et avec un réseau, un langage universel, un réseau intelligent. Tout ça, ils le prédisent de là où ils sont. Ce qui veut dire que c'est des excellentes nouvelles, puisque comme c'est nous, et que c'est une version future de nous, nous sommes potentiellement, nous avons réussi à sortir de cette matrice. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça me semble assez important et assez relié à ce dont nous parlons, puisque Cobra l'a évoqué. La race centrale, ça ne veut pas dire que c'est un truc raciste, hein. Ça veut dire qu'ils sont proches du centre de la galaxie. Et donc, ils sont beaucoup plus évolués parce que cette humanité-là est apparue en premier et a énormément d'avance sur nous. Et ils disent que c'est eux qui nous ont créés génétiquement et qu'on vient tous des Pléiades, en fait. Ça, c'est leur le code génétique, c'est eux qui l'ont implanté sur Terre, et les êtres humains et les autres êtres vivants, c'est eux qui l'ont... Voilà. Alors, il y a cette histoire de 750 ans, et puis il y a cette histoire de... Ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais comme ce sont des voyageurs temporels, ils peuvent aller vraiment où ils veulent dans le temps, hein, et puis interagir. Mais ils ont une connexion avec la source extraordinairement puissante. Et ils veulent nous insuffler ça pour que nous, on se réveille. Ça rejoint beaucoup l'événement, pour moi.
Mais donc, Cobra. Les Wingmakers, c'est les Blue Avians dont ils parlent ? D'accord. Moi, c'est ce que j'ai lu. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est ça que je cherche, c'est que les Blue Avians, ce serait la civilisation qu'il y a dans The Law of One, de Ra.
Ok. En fait, c'est là où ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a la source d'origine des informations venant d'eux. Et par exemple, les Wingmakers, il y a les capsules qu'eux, ils ont laissées. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont attribuées à eux, qui ne sont pas forcément exactement de eux. Ce que Cobra a expliqué dans mon interview, c'est qu'il y a la source de base, et ensuite il y a des choses qui sont attribuées à eux qui ne viennent pas en fait d'eux. Des canalisations en particulier. Ouais. Pareil pour la Law of One, la loi de l'un, qui c'est une canalisation, et faire attention. Les Wingmakers, c'est la race qui vient du centre du centre de la galaxie. Et les Blue Avian aussi, disons qu'il y a plusieurs factions qui en fait ne font plutôt qu'un, mais c'est, les Wingmakers, c'est un terme générique qui est donné à tous ces groupes-là qui sont proches du soleil central. Et les Blue Avian, c'est une des factions des Wingmakers, si j'ai bien compris. Mais on est en pleine guerre de désinformation et d'information, donc il y a beaucoup de versions du même truc. Il y a énormément de... Donc c'est bien, c'est bien d'essayer de trouver la vérité, c'est bien aussi de... Ok. On peut se relaxer un peu, détendre un peu. Mais bon, moi, j'ai pas beaucoup étudié. Tout ce que je sais, c'est qu'ils viennent du centre.
Mmh.
On va faire des grosses séances de nettoyage énergétique en France pour justement essayer de... Non, pas essayer, justement. Changer ces conditions-là qu'on a. Et en particulier à Paris, on va amener la déesse. On va commencer par Notre-Dame, qui est le centre. C'est là où Paris a commencé. C'est là où il y a le centre du vortex, la déesse. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Et voilà, c'est très important parce que en ce moment-là, il y a eu des grosses victoires il y a un mois et demi et quelques. Et tout ce qu'on fait sur nos méditations et puis travail énergétique sur la grille va avoir beaucoup plus d'influence parce qu'il y a moins d'interférences. Et la grille, c'est ça qui, c'est une des clés aussi de notre situation parce que c'est la source en fait, c'est de là que vient notre énergie. Sans grille, il n'y aurait aucune énergie pour maintenir la vie. C'est là où il y a l'énergie qui maintient toute vie, qui maintient tout écosystème. C'est comme la source d'eau qui nourrit tous les êtres vivants. Donc la Kabbale a pollué cette eau et nous on peut la soigner parce que ce que j'ai expliqué aussi sur internet c'est ok dès qu'on a des pensées positives ces pensées là se répandent autour de nous et ont un effet et dès que, tout ce que la Kabbale crée toutes les choses la souffrance les choses négatives que la Kabbale crée génère une énergie qui se répand de la même façon et qui ensuite a des conséquences. Et c'est pour ça qu'ils génèrent, comme Charlie Hebdo, des choses comme ça, qui génèrent une énergie négative, qui ensuite leur permet, c'est une source d'énergie pour eux, qui permet de faire marcher leur système. Donc, nous, si on se réunit en groupe, qu'on se rend physiquement au lieu du vortex, on crée une énergie positive, on peut justement soigner tout ça. Et cette énergie-là, ensuite, le vortex, l'énergie ensuite se répand dans toutes les lignes telluriques. Et on peut avoir vraiment un gros effet parce qu'il y a un voile autour de la Terre qui crée des distorsions quantiques. Et si nous, on fait une méditation de lumière, on visualise la lumière à un point vortex particulier, on peut ouvrir un trou dans le voile par lequel des milliers d'autres êtres de lumière peuvent rentrer. Des fées, les Syriens, les Pléiadiens, les Ashtar et toute son équipe, et tout ça, il peut, si on ouvre une porte, parce que ils ont des technologies pour arrêter tout ça du jour au lendemain. Le problème, c'est que leur technologie ne marche pas bien à l'intérieur du voile à cause des distorsions quantiques. Si nous, on génère une énergie de paix, de lumière, les distorsions quantiques sont soignées. Et ça ouvre une porte par laquelle ils peuvent rentrer. Et ensuite, on peut avoir vraiment des énormes effets par ce genre de travail. Donc là, on est déjà au moins une quinzaine pour Paris. Et j'organise aussi pour Bordeaux et Nice qui sont... deux des principaux endroits où les Rothschild sont installés en France. Et ils font beaucoup de rituels dans ces deux villes. Et aussi le CERN, qui est à côté de Genève, qui est je pense que tout le monde connaît. Donc si vous voulez participer, vous m'envoyez un email à... C'est untwine, 1, le chiffre 1, @yahoo.com. Et voilà, je suis en train d'organiser du travail dans ces endroits-là. Ah, et aussi à Bruxelles. Voilà.
Voilà, il est un petit peu tard, c'est la raison pour laquelle on va s'arrêter. Donc il y a aussi la liste de diffusion PFC qui reprend les liens pour écouter ces enregistrements. Dont chaque membre peut diffuser une information que tous les autres reçoivent. Donc ceux qui ne sont pas encore sur cette liste, je peux vous inscrire. Vous recevrez aussi l'information à propos des Wingmakers qui me semble importante à connaître en ce moment dans notre parcours d'évolution. Voilà, chers amis de PFC, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver nombreux et motivés avant l'événement, mais pour le but d'après l'événement.